Les grands feuilletons de France Culture.
Le crime d'Orcival.
D'après l'œuvre d'Émile Gaboriau. Adaptation Henri Weitzman.
Aujourd'hui, 7e épisode, le rebouteux rend visite.
Résumé du 6e épisode.
À son domicile, le maire Courtois est tombé comme foudroyé à la lecture de la lettre de sa fille Laurence, qui demande à ses parents de lui pardonner sa faute et la décision qu'elle prend de se tuer.
Laurence est enceinte.
Pour son père, elle n'a pu être séduite que par le comte de Trémorel.
Planta dit à Lecoq avoir deviné depuis quelque temps le secret de Laurence.
Le rebouteux Reblot, qu'un domestique était allé quérir
pour donner les premiers soins à Courtois,
est très troublé quand Planta l'informe que l'on va vraisemblablement exhumer le corps de Sauvresy et y chercher des traces de poison.
Car on a découvert, en perquisitionnant chez Trémorel, des papiers, des reçus
qui laissent à penser que Sauvresy est mort empoisonné.
Dans la maison du juge de paix, Planta.
Prenez un peu de café, Lecoq.
Oh, volontiers. T'exquis.
Je ne propose pas, docteur.
Non, je suis à la fine.
Oui.
Elle est vraiment excellente, vraiment.
Oui, j'ai une très bonne adresse pour la fine. Ah. Je préfère la vieille prune.
Planta. Santé.
Oh, c'est vraiment... Ah, vous nous avez fait faire un dîner succulent, cher monsieur Planta.
Ah non, je dois avouer qu'il y a longtemps que je n'ai connu Paris Festin. Dites-moi, votre cuisinière est hors pair. Ah,
la bonne madame Petit. Ah, c'est une vieille ronchon qui a dû bougonner. D'abord parce que je ne suis pas rentré déjeuner. Ensuite parce qu'elle a été avisée fort tardivement que j'aurai deux convives à dîner. Oui, oui, elle a dû bougonner, mais chez elle, l'honneur commande. Et l'honneur consiste à faire honneur à mes invités. Mmh. Alors, elle a mis les petits plats dans les grands, comme on dit.
Ah, conscience professionnelle avant tout.
Ah. Un cigare, messieurs?
Ah non, merci. J'ai ma pipe, si vous le permettez.
Ah, je vous en prie, docteur.
Bien sûr.
Ça ne vous dérange pas.
Ah. Moi, j'accepte. Bien surtout avec ce délicieux café.
Je vais mettre dans la cave.
Et dans l'univers si confortable de votre bibliothèque.
Voyez-vous, Lecoq, je suis un vieux maniaque. Et oui, ma bibliothèque et ma serre, mes livres et mes fleurs. Ah, je suis l'homme de ménage de ces deux pièces-là. Docteur, puisque vous me faites le plaisir de rester avec nous, je vous montrerai votre chambre quand vous désirerez vous mettre au lit.
Entendu.
Monsieur Lecoq, lui, il a vu la sienne, je crois.
Oui, j'y ai déposé mon sac. Mais en ce qui me concerne, je me condamne à une nuit blanche.
Bon.
Et encore faut-il, avant de me mettre à écrire, que je vous demande quelques renseignements, monsieur le juge de paix. Bon.
Monsieur le juge de paix est à la disposition de monsieur l'inspecteur de la sûreté.
Les cérémonies.
Si vous le voulez bien, résumons l'ensemble de nos observations.
Oui, ce serait bien, je crois. Oui.
La situation est grave et le temps presse. De notre habileté dépend le sort de plusieurs innocents qu'accablent des charges plus que suffisantes pour arracher un oui à n'importe quel jury. Nous avons un système, mais M. Domini, en bon juge d'instruction, en a un aussi. Et le sien, reconnaissons-le, est basé sur des faits matériels. Tandis que le nôtre ne repose jusqu'à présent que sur des sensations plus ou moins discutables.
Oh, nous avons mieux que des sensations, Lecoq.
Je le pense, mais encore faut-il prouver.
Mais je le prouverai, mille diables. L'affaire est compliquée, difficile, tant mieux. Et si elle était simple, je retournerais sur le champ à Paris. Et demain, je vous enverrai un de mes hommes. Ce qu'il me faut à moi, c'est l'énigme indéchiffrable.
Donc vous êtes servi, là.
Non, mais tel que vous me voyez, à 20 ans, ayant fait de bonnes études, j'étais entré comme calculateur chez un astronome.
Oh,
oui, tiens. Intéressant, mais mal payé. Non, j'avais un esprit fertile en combinaison et rêvant de gagner de l'argent. J'avais imaginé une opération au moyen de laquelle on enlèverait 200 000 francs à n'importe quel banquier.
Hein?
Oui, sans plus de danger et aussi aisément. Tenez, que je soulève cette tasse.
200 000 francs?
200 000 francs. Non, mais c'est alors que je me suis dit, toi, mon garçon, si tu continues à rêver comme cela, un moment viendra où, de l'idée, tu passeras à l'exécution. Et voilà pourquoi, étant né honnête, mais tenant absolument à utiliser mes aptitudes, un beau jour, je remercie mon astronome et j'entrais à la préfecture.
Et... vous êtes content du changement?
Ma foi, monsieur, mon premier regret est encore à venir. Je suis heureux puisque j'exerce en liberté et utilement mes facultés de calcul et de déducteur. Et j'ai une passion prédominante, la curiosité.
Ah ben, indispensable pour l'avenir de votre métier. Mais une telle passion est à double tranchant. Elle commande à bien des vices ou vous détourne d'eux.
C'est très juste, docteur. Et j'avoue qu'elle ne m'a pas détourné de la passion de la femme. Et elle est mon talon d'Achille. Je ne parviens pas à la vaincre.
Ah.
Oui, eh oui. Moi, l'agent de la sûreté, craint des voleurs, des assassins, qui nagent en plein crime, qui lavent le linge sale de toutes les corruptions. Moi, Lecoq, je suis pour la femme plus simple et plus naïf qu'un enfant. Oh. Elle me trompe, je le vois. Et elle me prouve que j'ai mal vu. Elle ment, je le sais, je le lui prouve, et je la crois. Et là, je ne fais qu'attiser cette sorte de passion. On aime, et la certitude de ne pouvoir être aimé est une de ces passions qu'il faut avoir expérimentées pour en connaître l'immensité.
Comme je vous comprends, Lecoq.
Et oui, aux heures de raison, on se voit, on se juge, on se dit... Mais non, c'est impossible, elle est presque un enfant, je suis presque un vieillard.
Oh, vieillard.
Oui, on se dit cela. Mais au fond du cœur, on espère toujours.
Oui, on espère toujours.
Oh, excusez-moi, je me laisse aller, je bavarde. Et le temps passe.
Et Gaspin est toujours en prison.
Et nous l'en tirerons.
Oui.
S'il est étranger au crime. Et il doit l'être. Il est cependant un fait d'une importance capitale que seul je ne puis expliquer.
Lequel?
Est-il possible que Trémorel eût un intérêt vital à trouver quelque chose, un acte, une lettre, un papier, un objet quelconque d'un mince volume, caché dans sa propre maison?
Oui.
Oui, mais c'est qu'il me faudrait une certitude.
La voici. Je suis sûr que si Madame de Trémorel était morte de mort naturelle, le comte aurait démoli la maison pour retrouver certains documents qu'il savait en possession de sa femme, et que j'ai eu entre les mains.
Que vous avez eu?
Oui.
Alors c'est donc bien cela le drame. L'affreux désordre du Valfeuillu n'était pas un effet de l'art, comme on pouvait le croire de prime abord. L'assassin ayant tout mis en pièces, brisé les meubles, sabré les fauteuils pour faire croire au passage d'une bande de furieux. En fait, au milieu de ces actes de vandalisme, on peut donc discerner une exacte, minutieuse et même patiente perquisition.
Il ne s'agirait pas de malfaiteurs cherchant de l'argent et n'étant pas de la maison.
Non, non, non. Les indices sont tels que l'assassin ne peut être qu'une personne singulièrement liée à Madame de Trémorel, comme un amant ou son mari. Aussi, et avec la certitude que vous me donnez que l'on a pu chercher autre chose que des valeurs,
oui.
Je ne suis pas éloigné de croire, mon cher Plantard, que le coupable est l'homme dont le cadavre reste introuvable.
Oui.
Eh oui. Le comte de Trémorel.
Je n'osais pas prononcer ce nom. Mais je l'avais deviné.
Moi aussi.
Remarquez que j'ai dit « je ne suis pas éloigné de croire ». Pour moi, en effet, le crime du comte n'est qu'excessivement probable. Voyons si à nous trois, nous arriverons à une certitude. Dites-en, vous entendez ?
Quoi ? Non.
Mais on marche dans le jardin.
Jardin ? Un chat, peut-être.
Oui, peut-être. Excusez-moi.
Oui.
Bon, eh bien, supposons donc que sous l'empire de certains événements que nous aurons à rechercher plus tard, Trémorel ait été amené à prendre la résolution de se débarrasser de sa femme.
Admettons.
Bon, il ne peut pas ne pas avoir bien réfléchi sur les moyens de commettre le crime impunément. Il a donc disposé les choses de façon à faire croire que lui aussi avait été agressé. Et à tout entreprendre pour laisser le soupçon planer sur un innocent, ou du moins sur un complice infiniment moins coupable que lui.
C'est ce que je pense.
Dès lors, en adoptant ce système, il se résignait d'avance à disparaître, à fuir, à se cacher, à changer de personnalité en un mot, à supprimer le comte de Trémorel.
Oui, et à se refaire un nouvel état civil. Et cela nous explique aussi comment, la nuit du crime, il y avait au Valfeuillu toute une fortune. Or, généralement, quand on reçoit chez soi une somme importante, on a soin de la dissimuler autant que possible.
Oh oui.
Et pourtant, le comte de Trémorel étale ses billets de banque devant toute sa domesticité. Comme s'il voulait que tout le monde sache bien et puisse répéter qu'il a chez lui des sommes considérables et faciles à prendre, à emporter, à cacher.
Oui.
Et quel moment choisit-il pour cet imprudent étalage ?
Allez,
hein ? Le moment juste où il sait... et où chacun sait dans le voisinage qu'il passera la nuit seul, au château, avec la comtesse.
Évidemment, il n'ignorait pas que tous ses domestiques étaient conviés pour le 8 juillet au soir, au mariage de l'ancienne cuisinière, Madame Denis.
Mais parbleu, mais puisque c'est lui qui a fait les frais de la noce.
Oui.
Et qu'il
oui,
en
oui.
a fixé le jour quand Madame Denis est venue présenter à ses anciens maîtres son futur mari. Vous savez, c'est la première chose que j'ai apprise en arrivant à Orcival. Bon, ces préliminaires ont l'avantage d'éclairer la situation de Guespin, dont l'attitude est certainement louche. Mais nous savons que la comtesse est morte d'un coup de couteau.
Oui, un seul.
D'un seul. Le premier, comme foudroyée en somme. Elle n'a pas lutté, donc elle n'a pas arraché un lambeau d'étoffe aux vêtements de l'assassin.
Par conséquent, admettre la culpabilité de Guespin est une absurdité. C'est admettre qu'il a été assez fou pour aller placer un morceau de sa propre veste dans la main de la victime.
Et c'est admettre aussi qu'il a été assez simple pour aller jeter cette veste déchirée pleine de sang dans la Seine,
oui,
du haut du pont. En un lieu où il devait bien penser qu'on ferait des recherches. Et cela sans prendre même l'élémentaire précaution d'y attacher une pierre pour la maintenir au fond de l'eau.
C'est impensable.
Mais enfin, si Guespin est innocent, que ne parle-t-il ? Que n'invoque-t-il un alibi ?
Je crois Trémorel assez perfide pour avoir tendu un piège à son domestique. Et assez habile pour lui enlever tous les moyens de fournir un alibi.
Un piège ?
Oui, un piège. Enfin, tout cela reste encore à élucider. Pour l'instant, revenons à la scène du crime.
Oui.
À l'assassinat de Madame de Trémorel. Il est 10h du soir. Le couple s'est retiré dans la chambre à coucher. La comtesse est assise devant la table où est servi le thé. Lui, armé d'un long poignard, est debout près de sa femme. Il sait où frapper pour que la blessure soit mortelle. Il frappe, et la comtesse tombe sans pousser un cri, heurtant du front l'angle de la table qui se renverse. Non, mais dites-moi, messieurs, quel autre homme que l'amant ou le mari d'une femme peut-il aller et venir dans sa chambre à coucher, s'approcher d'elle quand elle est assise, sans qu'elle se retourne ?
Personne, c'est évident.
Et alors ? Alors la suite, nous pouvons la reconstituer facilement, étant donné l'état dans lequel nous avons trouvé les appartements.
Oui, faites.
Tout indique que le meurtrier voulait à tout prix mettre la main sur ce document qu'il sait être en possession de sa femme. Il avait cru le découvrir facilement, il s'est trompé. Alors, il finit par tout démolir, tout saccager. Il éventre les fauteuils, soulève la tablette de la cheminée, ce qui fait tomber la pendule qui s'arrête vers 10h30.
10h30, oui.
Toujours rien. Le temps passe. Il s'affole.
Pourquoi?
Il croit entendre du bruit. Et si un visiteur tardif sonnait à la grille? Et si un domestique ayant quitté la noce pour une raison quelconque rentrait avant les autres?
Oui.
La peur et la rage font qu'il s'acharne sur le corps de sa femme. Puis il se calme et se reprend. Il faut qu'il se transforme. Il coupe sa barbe et se rase complètement.
Oh. Enfin, Lecoq, vous croyez? Mais qu'est-ce qui vous fait affirmer cela?
Une serviette! Sur laquelle j'ai reconnu une de ces marques que seul laisse le rasoir quand on l'essuie. Non, ça ne trompe pas! D'ailleurs, j'ai trouvé la boîte de rasoir. L'un d'eux était humide.
Hein?
J'ai rangé soigneusement la serviette et la boîte. Raser le comte était peut-être méconnaissable.
Sûrement. Oui, Sauvrosy m'a dit un jour que de tout temps, Trémorel s'était laissé pousser la barbe. Doté d'une forte pilosité déjà au collège, il se flattait d'avoir un jour la plus belle barbe de Paris.
Le voilà donc un autre homme. Transportant le corps de sa femme jusqu'au bord du fleuve, dans les conditions que nous avons déjà relatées. Marchant à reculons pour faire croire à la police que son propre cadavre a été traîné et jeté à la Seine.
Oh.
Seulement, le misérable n'a pas réfléchi que les jupons de la comtesse laisseraient leurs traces sur l'herbe et dévoileraient la ruse.
Hein?
Il n'a pas songé non plus que ses bottes à talons hauts marqueraient l'empreinte de son pied sur la terre humide.
L'empreinte de son pied sur la terre humide? Mais vous ne m'aviez pas fait part de ce détail quand nous étions là-bas, le
cachotier, cachotier.
Mais ni de plusieurs autres encore.
Ah bon?
Oui, et comme j'avais des raisons de supposer notre cher juge de paix bien mieux instruit que moi, je n'étais pas fâché de me venger un peu de sa discrétion incompréhensible à mon égard.
Ah, eh bien vous voilà vengé. Mais soyez rassuré, vous n'avez rien perdu pour attendre, cher inspecteur.
Mais je l'espère bien. Donc, le comte a déposé le cadavre dans l'eau. Comme nous l'avons trouvé, sans qu'il y ait eu jaillissement. Puis il a piétiné le sol, rayé le sable pour faire penser à une lutte. Ensuite, il a regagné la maison pour tenter une fois encore de trouver l'introuvable papier. Et surtout pour prendre les dernières mesures qui devaient, selon lui, assurer la réussite de ses projets. Il prend ses pantoufles et un foulard qu'il tache de sang. Une des pantoufles et le foulard seront jetés sur le gazon.
Oui, c'est moi qui l'ai trouvé. Justement.
Oui. L'autre pantoufle sera lancée au milieu de la Seine.
Mmh.
Oui. Cependant, il a commis des bévues.
Des bévues?
Mais oui, les bouteilles vides qu'il a placées sur la table. L'une d'elles contenait encore un peu de liquide qu'il a pris pour du vin.
Le vinaigre?
Mais oui, c'était du vinaigre.
Ah bon?
Il en a déposé quelques gouttes dans le fond des seins verts. Quoi encore? La pendule?
Quoi, la pendule?
La pendule qu'il avance en oubliant d'accorder l'heure à la sonnerie.
Mais oui, mais oui.
Enfin, il ne voit pas qu'il est absolument impossible de combiner deux choses.
Non, attendez, Lecoq. Plus lentement, je vous prie.
Le lit défait.
Oui.
Et mal défait. La pendule marquant 3h20 et la comtesse, habillée comme en plein jour.
Oui, comme en plein jour. Oui.
Pour terminer, il y a un point sur lequel, grâce à vous, monsieur le juge de paix, nous sommes parfaitement fixés.
Ah?
Et oui, la lettre! La lettre!
Mais oui, la lettre!
Le papier dont Trémorel convoite la possession et qui compromet qui? Le comte et la comtesse ensemble ou seulement le comte?
Les deux ou le comte seul?
Au choix.
Non, mais ce qui est sûr, ce qui est sûr, c'est que madame de Trémorel considérait cet écrit soit comme une garantie, soit comme une arme terrible mettant son mari à sa discrétion. D'où l'acharnement du comte à la rechercher. Alors il fouille de nouveau partout et va jusqu'à attaquer un meuble à la hache. Quand il entend un cri poussé dans le jardin, il court à la fenêtre et il aperçoit...
La ripaille.
Bien, docteur.
La ripaille.
Bien, la ripaille. La ripaille et son fils au bord de l'eau, près du cadavre. Alors, il lui faut fuir à l'instant même. Il lance la hache qui entaille le parquet, descend 4 à 4, glisse dans ses poches les liasses de billets de banque, s'empare de la veste déchirée tachée de sang de Guespin et se sauve par le jardin.
Par le jardin, mais oui.
Et c'est lui, messieurs. Forme fuyante que le vieux Larry Paille a vu se diriger vers les bois de Montprévoir.
Oh, bravo, quelle démonstration!
Éblouissant. Pas d'autre mot.
Taisez-vous. Qu'y a-t-il? Cette fois, je suis sûr. Ne bougez surtout pas.
Oh, il a bondi comme un tigre.
Qu'a-t-il pu voir?
Il faut peut-être intervenir.
Non, non, docteur. Je crois que c'est inutile. Voyez. Oh.
Avance. Messieurs, je vous présente Monsieur Roblot. Roblot, Orcival herboriste par prudence et empoisonneur par vocation.
Mais vous êtes blessé, Lecoq. Vous saignez au cou.
Non, mais non, c'est rien, une égratignure. Ce drôle avait un grand coutelas fort pointu dont il a voulu jouer. Et qui vous était destiné, mon cher juge de paix.
Hein? À moi? Mais alors, que vouliez-vous faire chez moi, hein, Roblot?
Deux fois rien, monsieur le juge de paix. Je l'avoue, je voulais chaparder.
Allez donc!
Et voler quoi?
Oh ben, simplement des fleurs dans la serre.
Oui, c'est ça, hein? Avec un énorme coutelas pour les couper.
Oui, je voulais prendre les pots pour les revendre.
Ah, d'autres, mon garçon! Toi, un homme qui achète et paie content des terres excellentes, voler des pots de bruyère. Allons donc. Là, malgré toi, tu as laissé filer un secret qui te tourmente diablement, hein? Et tu es venu pour tâcher de le reprendre. Tu t'es dit sans doute que M. Plantin n'avait pas encore parlé à qui que ce soit et tu es arrivé avec le projet de l'empêcher désormais de parler à âmes qui vivent.
Oh, ben, moi? Ben, ça
paraît... Tais-toi! Et ton couteau?
Peut-être ai-je effectivement parlé trop tôt.
Mais pourquoi donc? Tu cherchais une preuve palpable à donner à M. Domini. Nous lui servirons ce joli garçon.
Et que va-t-on faire de lui?
M. Plantin a bien dans sa maison... Un coin sans issue?
Oui, j'ai là un petit cabinet noir tout à fait sûr.
Très bien, Planta. C'est notre affaire. Allez, avance-toi! Avance! Sans que j'aie à te pousser. Tu seras là-dedans comme un petit roi.
Je sois!
On te donnera une carafe d'eau! Sois bien sage!
Vous m'avez sauvé la vie, Lecoq. Oui, et au péril de la vôtre. Je ne vous remercie pas. Un jour viendra, peut-être, où...
Ah, Plantin, vous m'en remercierez plus tard. Quand j'aurai acquis d'autres droits à votre gratitude. D'ailleurs, je ne suis pas encore pleinement satisfait.
Oh, mais que voulez-vous de plus?
Non. Non, la culpabilité de Trémorel est totale, certes. Mais comment a-t-il été conduit à tuer sa femme et à essayer de faire croire que lui-même avait été assassiné? C'est dans le passé, je le sens, qu'il faut chercher les raisons de ce meurtre d'aujourd'hui et la terrible résolution de l'assassin. Un crime lié le comte et la comtesse, si indissolublement que la mort seule de l'un pouvait rendre la liberté à l'autre. Ce crime, je l'ai soupçonné du premier coup. Et l'homme que nous venons d'enfermer là, Roblot, le rebouteux, qui voulait assassiner Planta, en a été l'agent ou le complice.
Sauvres-y.
Oui, sauvres-y. Et ce papier que cherchait le meurtrier avec tant d'acharnement. Cette lettre, pour laquelle il négligeait le soin de son salut, doit contenir l'irréfutable preuve du crime. Oh, faut-il qu'il soit écrasant, le fardeau d'un tel passé, pour qu'un homme jeune, riche, cherche à s'y soustraire, en combinant froidement un nouveau crime, en acceptant de perdre sa personnalité, sa situation, son honneur et son nom. Oui. Et quel passé que celui dont le poids peut décider au suicide une jeune fille de 20 ans.
Ce que vous dites, vous ne le pensez pas, monsieur Lecoq. Laurence n'a jamais rien su. Il n'était besoin ni de ruse, ni de subterfuge pour me déterminer à dire ce que je sais. Je vous ai témoigné assez d'estime et de confiance pour vous ôter le droit de vous armer contre moi du secret douloureux. Oui, ridicule, si vous voulez, que vous avez surpris.
Non, pardonnez-moi, Plantard. Mais il fallait bien...
Oui, je sais. Votre surprenant génie d'investigation vous a conduit à la vérité. Mais vous ne savez pas tout. Et maintenant encore, je me tairai si les raisons qui me commandent le silence n'avaient cessé d'exister. Je vais donc parler. Mais avant de commencer, je devrais, messieurs, consulter vos forces. En effet, voilà 24 heures que nous sommes debout et...
Aucune fatigue, je vous en prie.
Non, c'est trop passionnant.
Alors, écoutez-moi. Ou plutôt, écoutez ce que je vais essayer de faire revivre.
Pourquoi Reblot voulait-il tuer Plantard ? Le 8e épisode vous l'apprendra.
C'était, d'après l'œuvre d'Émile Gaborio, adaptée par Henri Weitzman,
le 7e épisode du crime d'Orcival.
Avec Bruno Balte, Jacques Charby, Gérard Lartigot, Fred Persson.
Bruitage, Dominique Aubert. Chef opérateur du son, Guy Senot. Collaboration technique, Claude Niort. Assistant de production, Didier Lagarde. Réalisation, Jeanne Rollin-Weiss.
Cet épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 20 août 1984. Comme les 6 premiers épisodes de ce feuilleton, vous pourrez le réécouter en ligne ou le télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission. Demain, à la même heure, un ami dévoué, Clément Sauvresy.